blanche. Une heure avec Xavier Niel, c'est la promesse qu'on vous fait aujourd'hui dans cet épisode de 40 nuances de Next en partenariat avec La Tribune dans le cadre de l'événement 10 000 Startups. On y évoque ses investissements, son regard sur la tech, les impacts de la guerre en Ukraine, mais aussi la place des médias, son éternel optimisme, mais pas que. Un échange avec Xavier Niel, donc on vous propose de déguster tout de suite avec Philippe Mabille dans 40 nuances de Next.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes au Grand Rex, notamment, mais également, vous êtes nos auditeurs sur le podcast 40 nuances de Next pour le FinTech Summit Paris. 10e anniversaire du grand concours 10 000 startups pour changer le monde, qui a été inventé par La Tribune, réalisé par La Tribune et qui va remettre, vous le verrez, et vous en entendrez parler, je pense, sur tous les réseaux sociaux et autres, remettre les prix, les lauréats de cette année. Alors, pour cette édition spéciale, il nous fallait un invité très spécial et on a vraiment le plaisir de recevoir, enregistré à l'avance, vous allez le voir, et on va faire un super podcast avec lui, Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, créateur de Free dans les télécoms, grand investisseur, grand entrepreneur, fondateur de Station F, de l'école 42, qui mieux que lui pouvait parler à la scène start-up, aux jeunes de la Start-up Nation, est-ce qu'elle a réussi, est-ce qu'elle a échoué? Bonjour Xavier.
Bonjour Philippe, merci.
Merci, merci beaucoup d'être avec nous en ce studio. Et pour l'interroger, évidemment, comme on a voulu marier La Tribune avec 40 nuances de Next, ça fait depuis le confinement qu'on est mariés 40 nuances de Next et La Tribune. Alors on a Thomas Benzazon de Feuille Blanche. Alors qu'est-ce que c'est 40 nuances de Next?
Eh bien, 40 nuances de Next, c'est le premier podcast où on ne choisit pas nos invités. Chaque année, il y a 40 startups qui sont les champions de la tech, qui sont décidées par Bercy, qui a donc créé ce palmarès. Et comme on ne choisissait pas jusqu'ici nos invités, ben, on est ravis pour une fois de pouvoir le choisir avec toi. Xavier, bienvenue.
Bonjour, merci.
C'est pas la première fois que tu passes, finalement, dans 40 nuances de Next. Tu avais eu l'occasion de poser une question à Jacques-Antoine Grandjean, qui est ton ami et un entrepreneur avec VP. Donc, tu n'échapperas pas non plus aux questions surprises de certains de tes proches.
Alors, on va commencer tout de suite par le vif du sujet. On parle donc à des entrepreneurs qui veulent lever des fonds, des jeunes. Vous en connaissez beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont dans la salle. Il y en a beaucoup qui nous écoutent dans ce podcast. Et ils savent tous que, c'est-à-dire jusqu'au 24 février, en tout cas, de cette année 2022. C'est très triste date, évidemment. On ne va pas faire une minute de silence, mais évidemment, on pense beaucoup à ce qui est en train de se passer. Et on est, précisons-le, le 14 mars. On diffusera cette édition à partir du 28 mars. Il va se passer beaucoup de choses d'ici le 28 mars. Mais cette guerre au cœur de l'Europe change probablement le monde. Mais néanmoins, avant cette guerre, on avait un monde de la tech, et notamment en France, une scène start-up, une scène start-up nation qui fonctionnait très bien. Je rappelle les chiffres, hein. 11,6 milliards d'euros levés en 2021. On a vu des deals parmi les plus gros, je ne vous donne pas les chiffres. 25 à 26 licornes françaises. Donc, Xavier Niel, ce serait ma première question. La start-up nation, ça marche?
Je crois que ça marche, ouais. On va dire que c'est un bon début, c'est pas encore parfait, mais on est dans quelque chose qui a pris de l'ampleur au cours des 5-7 dernières années pour arriver où on est aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a changé, hein, c'est que la France s'est retrouvée intégrée en fait, dans un rôle de nation dans lequel on peut créer des grandes entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nouveau. Pour notre écosystème et qui est incroyablement important parce que ça permet à des investisseurs du monde entier de regarder cet écosystème et d'y investir. Et si on reprend les montants d'élevés de l'année dernière, une partie significative de ces élevés vient d'investisseurs qui sont des investisseurs de la tech qui étaient présents tous aux US, parfois un petit peu en Angleterre, et qui maintenant se sont positionnés très fortement en France.
Et est-ce que les politiques ont fait pour la tech? Est-ce que les entrepreneurs ont fait pour la tech? Toi, tu es très impliqué. L'école 42 qui répond à deux grands sujets. Déjà, la pénurie de talents du numérique et puis l'égalité des chances aussi avec la méritocratie en point d'ancrage. Avec Station F, c'est un lieu mythique. Je pense qu'il n'y a pas une start-up, ou presque, il ne faut pas exagérer, mais qui n'est pas passé un moment à Station F pour rencontrer cet écosystème. On se demande forcément quelle est la suite. Et justement, à ce sujet, on a une question et on commence par là.
Vous avez un message.
Bonjour Xavier. Alors tu le sais, on est nombreux à être admiratifs de ton dynamisme inépuisable et de la manière avec laquelle tu injectes de l'énergie dans la tech française. J'ai même écrit une page entière sur toi dans mon livre Mission Blablacar. Mais alors, il y a une question qu'on est encore plus nombreux à se poser. Pourquoi fais-tu tout cela ? C'est super, c'est innovant, tu développes des nouveaux concepts et des nouveaux écosystèmes hein, avec École 42, Station F, Hectare et bien d'autres, en lien avec des projets économiques et immobiliers souvent. Mais alors, qu'est-ce qui te pousse à faire tout cela ? L'insatisfaction perpétuelle, la gloire, l'amour de la France, de l'innovation, autre chose, je ne sais pas. Et question subsidiaire, quel est ton prochain grand truc ? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait et que tu souhaites faire ? Merci beaucoup.
Tu as reconnu Frédéric Mazzella, oui, Blablacar. Je dis ça pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu en l'entendant dans le podcast.
Non, je crois que la notion, c'est de se dire l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui permet à chacun de saisir sa chance. C'est-à-dire que dans un monde où on se dit qu'il y a beaucoup de... Alors ça va beaucoup mieux, hein, mais il y a un problème d'emploi dans ce pays. Il faut qu'on soit capable que si on cherche un emploi, une des solutions, c'est de créer son propre emploi. Et si on crée son propre emploi, en plus, si ça marche, on va en créer d'autres. Et c'est ça le sujet de base. Et c'est une notion de rendre ce que ce pays m'a donné en me donnant la chance de devenir entrepreneur. Moi, je suis devenu entrepreneur maintenant il y a 35 ans, donc c'était il y a très longtemps. Mais là,
et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui.
C'était un écosystème un petit peu différent. Ouais. Et puis la levée de fonds paraissait moins naturelle. Enfin, c'était quelque chose de complètement différent même. Mais c'est de se dire, cet écosystème-là, on est capable de l'aider. On est capable de l'aider ou de le pousser à grossir. Quand je reprends votre question, moi, je crois assez peu en fait, que les politiques... aide l'écosystème. En fait, l'écosystème, il se développe par lui-même. On peut le voir aux États-Unis, on peut avoir des bons dirigeants, des mauvais dirigeants, l'écosystème continue de se développer. Il n'a jamais été aussi puissant qu'au moment de Trump, alors que Trump mettait des barrières, notamment à l'immigration, qui permettaient d'avoir des talents qui venaient aux États-Unis aider ses entreprises. Et pourtant, ça a explosé, notamment pendant, pendant qu'il était président. Donc, les politiques amènent peu de choses. Par contre, la société
civile... Donc, il n'y a rien à leur demander.
On y viendra tout à l'heure, parce que je crois qu'il y a une question là-dessus, mais donc, on va y arriver. Mais ce qu'on a à leur demander, c'est une stabilité. C'est toujours la même chose. Mais donc, c'est cette société civile qui doit s'en servir, et on ne doit pas être là en permanence à se dire « ça ne marche pas, c'est de la faute des autres ». Non, ça ne marche pas, c'est de notre faute à nous, et il faut s'en saisir, prendre cette chance, et avancer avec cette chance pour aider cet écosystème. Donc moi, j'ai eu la chance de gagner de l'argent dans la tech il y a très longtemps, de manière durable. J'aime mon pays, et comme je crois la grande partie des Français, et donc à partir de ce moment-là, ça me paraissait naturel d'essayer de se dire comment on aide à créer un écosystème de start-up plus grand, qui aille plus loin. Et alors encore une fois, on n'est pas des hommes politiques, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est capable de créer dans cet écosystème pour au bout que ça marche. Et donc bah, il faut amener des fonds, c'était l'idée de la création de Kima Venture, donc on amène des fonds à cet écosystème, il faut former. Et le sujet de base, c'était de se dire, dans le digital, on a besoin de gens qui fassent du code informatique. C'est un des éléments incroyablement importants. Donc, allons former des codeurs. Et en plus, de par notre éducation, ou je ne sais pas, ou de par nos gènes, je ne sais pas par quoi, on est capable d'avoir dans notre pays des bons développeurs. Et puis, au bout, donnons une image de la France qui est une image d'entrepreneur et allons créer un lieu mythique. C'est l'idée de Station F que l'on crée avec Roxane. Allons créer un lieu mythique dans lequel on a envie ou on donne l'envie à des gens de venir créer leur start-up là et puis même des gens de l'étranger de venir pour les faire, pour les développer, faire marcher.
Juste sur la question de Frédéric, il y avait quand même une suite. C'était c'est quoi le moteur aujourd'hui de Xavier Niel et c'est quoi le prochain grand truc?
C'est la gloire, l'amour de la France ou
Non, c'est une forme de give back, c'est de se dire moi j'ai eu cette chance et est-ce que je suis capable d'aider d'autres, à la fois mon pays, à la fois des personnes, à aller dans ce sens-là.
Il y a des entrepreneurs qui t'ont aidé à tes débuts?
Pas vraiment, mais c'était un autre monde et un autre
écosystème. Ça n'empêche pas de redonner quand même.
Ouais, et puis,
mais le prochain grand truc, on y pense?
Non, j'ai peur d'être super décevant. Non, mais on vient de lancer, il en parle Frédéric gentiment, d'Hectare, c'est de se dire, OK, il y a des entrepreneurs, pas seulement dans la technologie, il y a des entrepreneurs ailleurs, notamment dans l'agriculture, et comment on est capable de les accompagner, de les aider, de leur de mélanger un peu de technologie là-dedans et de créer,
d'aller aussi
et de créer des super entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs.
En dehors de la tech pure.
Oui, enfin,
il y a de la tech partout.
Enfin, je veux dire, quelle que soit notre activité, on rajoute toujours de la tech aujourd'hui.
On en parle beaucoup en ce moment, mais avec cette vision de souveraineté alimentaire, souveraineté tout court.
Ouais, et de circuit court, de l'envie de regarder, l'envie d'apporter quelque chose à la société. Et qui amène énormément de choses à la société? C'est l'agriculteur, c'est l'éleveur. Lui amène énormément de choses à la société. Donc, quand on a des jeunes qui ont un sujet de quête de sens, l'agriculture, ça répond à ce besoin de quête de sens.
Une question quand même qu'on ne peut pas ne pas se poser, donc on sera après le 28 mars quand on diffusera cette émission, enregistrée avant, mais on se pose tous, enfin, on a une certaine inquiétude quand même par rapport à ce qui est en train d'arriver, quelque chose d'imprévu, une sorte de signe, un grand signe noir. Donc comment est-ce que vous voyez les choses? On était parti sur une accélération, tout allait bien, il y avait un monde avec peu d'inflation, les taux d'intérêt bas, on va avoir un monde plus compliqué, avec des taux d'intérêt probablement plus élevés. Est-ce que ça peut provoquer un retournement de la scène tech? Est-ce qu'il peut y avoir? Ou est-ce que ça va trier entre le bon grain et l'ivraie?
Moi, j'ai connu un certain retournement. On était là en 2001, 2003, et c'est quand même des années où on a fait on a trouvé des entrepreneurs incroyables. Ils ont réussi à lever des fonds, ils ont réussi à se développer.
Ceux qui ont survécu à l'an 2000 survivront à 2022.
Ce n'est pas les mêmes,
mais c'est le même état d'esprit.
Tous les grands produits qu'on utilise aujourd'hui, qui viennent malheureusement souvent des États-Unis, ils ont été créés à ces années-là. Donc, alors qu'on était au fond du trou, tout allait mal, tout allait disparaître. Donc, ça pousse les entrepreneurs à un peu moins de facilité, un peu plus de réflexion, à mieux perfectionner leur idée, à recruter plus intelligemment, et pas de se dire, dans tous les cas, je suis capable de relever de l'argent, et puis on verra plus tard ce qui va se passer.
Est-ce qu'il n'y avait pas un petit phénomène, quand même, un peu agaçant dans la Startup Nation, d'une certaine forme de facilité? C'est-à-dire trop facile de trouver de l'argent. Je ne dis pas pour qui m'aventure.
Hein. Non, pour tout le monde.
Mais visiblement, on entend ça, il y a trop d'argent dans la tech, on finance un peu tout et n'importe quoi. On va parler un peu de Web3, etc. Alors, il y a des effets de mode. Tout le monde veut être le premier, évidemment, c'est ça l'idée, mais au risque d'arroser un peu le sable. Est-ce que c'est quelque chose sur le... Comment vous avez résisté à cet effet-là?
On ne résiste pas à ça, mais c'est des cycles. Donc, on est à un moment en haut de cycle. Dans le haut de cycle, il y a l'euphorie. Super. Après, on va redescendre dans le cycle. Il y a moins d'euphorie, mais ça n'empêche pas toujours d'avoir des entrepreneurs. Je ne sais pas, moi, si on va supposer qu'on va être dans un monde plus sombre, mais on a toujours énormément d'argent dans le système, des gens qui ont besoin de recherche, de rendement sur cet argent, probablement des taux d'intérêt qui vont rester bas avec de l'inflation. Enfin, vous avez aussi des éléments qui peuvent paraître, quand on a des taux bas et de l'inflation, on est dans des moments où, normalement, c'est explosif pour la création d'entreprises et la création de valeur. Voilà. Mais je vois toujours tout de manière optimiste, donc je cherche pas
à
voir ça. C'est pour ça qu'on fait des trucs.
Alors, on va rester optimiste. Tu disais là que la plupart des services qu'on utilise ont été créés à l'étranger, notamment pendant les années 2000. Aujourd'hui, on a 25-26 licornes. Comment on fait en sorte qu'elles conquièrent le monde? Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on ne vend pas parfois trop tôt en France quand on vend, même s'il y a peu d'exit?
Alors, le premier élément, je pense qu'on a plus que 25 ou 26 licornes. Après, il y a des tours non annoncés, il y a des sociétés qui ne lèvent pas, qui ont des valeurs supérieures. Donc, on est dans un monde qui voit des chiffres, mais qui dépend d'annonces publiques. Mmh. Et parfois, l'entrepreneur, et en plus, il cherche à arrondir ses chiffres pour devenir licorne. Parce que c'est mieux.
Vous avez un chiffre pour le nombre de licornes?
Moi, je ne connais pas le chiffre. Je pense qu'on est significativement... Je pense qu'on est au-dessus de 30 aujourd'hui.
Au-dessus de 30 licornes.
Mais le sujet, c'est qu'une licorne, entre guillemets, qui marche, elle n'a pas besoin de lever de fonds. Donc, on ne va pas l'avoir passée. C'est un peu quand même un problème.
Une licorne dont la corne n'a pas encore poussé.
Qui n'a pas levé de fonds avec une valeur visible. La corne est invisible. Donc, on a dans notre écosystème un certain nombre d'entreprises qui sont comme ça. Tant mieux pour elles, et elles vivent sous le radar, et elles se développent, et elles ont des croissances parfois très très fortes, et c'est très bien. Donc, à partir de ce moment-là, le sujet, c'est quoi? C'est que nous, on a toujours cru aux lois statistiques. Alors, on se moquait de nous sur Kima dans le temps, en disant « vous faites 100 ou 150 investissements par an ». On fait juste une loi statistique. On va essayer de pas trop se tromper. On met à peu près le même montant dans 100 ou 150 startups.
Et on aura bien dit.
Et puis, si on estime qu'il y en a 1% ou 2% qui deviennent 1% ou 1 pour 1000 qui deviennent licorne, si on en fait 1000, super, on en a eu. Alors, nos taux de licorne sont bien meilleurs que ça, mais parce qu'on est un peu mieux. Mais voilà. Mais donc, c'est toute l'idée de faire, d'avoir une loi, une loi statistique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'on a des startups qui grossissent. C'est bien la même, soit la loi statistique, faut l'appliquer aux gens qui vendent, aux gens qui vendent pas. On a un pourcentage d'entrepreneurs qui vont vendre et puis d'autres qui vont pas vendre. Et plus on va avoir dans nos 30 licornes, vous verrez qu'on en aura, on en a déjà un certain nombre qui sont mondiales et puis au bout qui se développeront. Et puis, il faut pas oublier nos entrepreneurs qui ont quitté nos frontières. Moi, j'étais ravi d'être actionnaire de Snowflake. Ça se passe très, très bien. C'est une des plus grandes boîtes créées par des Français. Cette boîte est incroyable. Bon, elle est pas basée en France, mais elle est créée par des Français.
Alors, on parle beaucoup des effets d'économie d'échelle, des effets de taille dans cette économie de la start-up. Alors, les États-Unis, dans ce grand marché américain, qui est un vrai marché unique, qui leur a permis de partir aussi à la conquête du monde, plus un monde de langue anglaise, etc. Nous, on voit bien, et est-ce que ça peut être d'ailleurs l'un des effets de la crise ukrainienne, un des effets positifs finalement, c'est que l'Europe se réveille. Et on voit notamment sur l'Europe de la tech, parce que notre monde écologique va être très technologique, il va y avoir besoin de puces, de batteries, etc. Il va y avoir des investissements considérables. En tout cas, ils sont annoncés. Je ne sais pas s'ils auront lieu, mais en tout cas, on nous annonce un plan d'investissement considérable dans la transition écologique et numérique. Est-ce que vous voyez ça comme une énorme opportunité pour développer à l'échelle européenne des GAFA européens ou les GAFA du futur européen?
Je crois qu'il y a eu un changement là-dessus. C'est-à-dire que si vous prenez, et je suis sûr qu'on parlera nominativement de start-up plus tard à un moment ou un autre, mais vous avez des start-up aujourd'hui qui se sont créées, qui sont directement globales, qui sont dans le monde entier. Sur des choses autour, tout ce qui est autour des cryptos, autour des NFT, on a, par essence, on devient, par essence, naturellement, dès le premier jour, mondial. On est partout, mondiaux ou mondial. Voilà. Donc on se retrouve immédiatement partout. Donc cette chose-là, dans les startups du digital, a changé et on y est. Dans le temps, on se plaignait de ne pas avoir un marché intérieur. Maintenant, notre marché, on est passé au-dessus du marché intérieur pour avoir un marché directement global. C'est une bonne chose, donc on y est. Alors après, là, dans les sujets qui sont évoqués là, on est dans des sujets de fabrication, et là, on a un sujet d'entreprise plus locale, parce qu'il y a des coûts de transport ou des choses comme ça, qui changent un peu la donne.
Tu parlais de ton rôle d'investisseur. C'est un vrai sujet de comment on choisit les boîtes dans lesquelles on investit. On sait qu'il y a les fameux pivots, donc ça bouge beaucoup. D'ailleurs, souvent, les BP annoncés ne sont pas les mêmes quand on regarde la réalité 2-3 ans après. Et souvent, on a des investisseurs qui nous disent « Moi, d'abord, je mise sur l'entrepreneur. » Comment, en quelques entretiens, on arrive à sentir qu'on a un entrepreneur qui va être capable de passer les crises dont certaines ont parlé Philippe, d'ailleurs?
Nous, on a eu, en tant qu'investisseurs, des super succès sur des pivots. On était actionnaires de Slack. C'est une boîte de jeux et qui est devenue le produit qu'on connaît aujourd'hui et qui a été depuis vendu. Donc, et c'est un exemple énorme. Enfin, je veux dire, la création de valeur sur la durée entre le jeu vidéo qui foire et le Slack vendu au bout, on a tout un chemin.
Et qui repose, et à l'époque, en effet, tu avais misé sur les entrepreneurs.
On avait misé sur un garçon qui s'appelle Stewart, qui était brillantissime, génial, modèle un peu comme ça, on ne sait pas trop où on va, pas du tout sûr de lui, pas la tchatche sur la table, je suis debout, je vous vends mon truc. Non,
c'est pas un Paul Morlaix.
C'est différent. Non, mais Paul a d'autres talents. Et encore une fois, et puis Paul n'a pas pivoté, parce qu'il a fait ça depuis le début et ça cartonne. Mais c'est comment on trouve ces talents, comment on est capable de les identifier. Et c'est toute la force, notamment de gens chez Kima, de parler avec des entrepreneurs, d'échanger avec eux et de se dire, bon, il y a le projet, il est là, mais l'entrepreneur, il est incroyable. Des idées, on en a tous. C'est comment on transforme ces idées en choses concrètes. Là, on perd beaucoup de monde, déjà. Et comment la personne qui se saisit de cette transformation en changes concrètes va être capable d'être brillant et suivre le dossier dans la durée. Donc, à la limite, l'idée, au bout, c'est bien, mais ce n'est pas la chose principale. On préfère miser sur un entrepreneur que sur une idée.
Du coup, la qualité principale de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est l'humilité face à ce qui se passe autour, la curiosité?
Non, je crois que c'est de se saisir de son problème et de saisir d'un problème et de le régler. Enfin, je veux dire, on a une notion de street smart. Comment je solutionne, j'ai un problème, je vais le solutionner. Et je ne vais pas appeler 43 boîtes de consultants pour m'aider à le solder. Ce n'est pas l'idée. C'est j'ai un problème, je dois le solder. En combien de temps je vais être à même de le solder, de le prendre à bas le corps et de le solder?
Mais souvent, l'entrepreneur, on dit, est seul face à son problème. Donc, comment le fait que dans ce modèle particulier de la start-up, c'est que l'investisseur aide. Il apporte bien sûr de l'argent, mais également de l'industrie, il apporte du conseil. Est-ce que vous faites ça beaucoup? Vous arrivez à dégager du temps pour, notamment pour des pivots, par exemple, pour, parce que derrière, c'est quand même aussi un pari.
On a fait un choix délibéré qui est de dire, premièrement, l'entrepreneur est celui qui connaît le mieux son business. Donc, ce n'est pas l'actionnaire qui connaît le business de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui connaît son business. Moi, je veux bien qu'on soit omniscient, qu'on sache tout dans tous les sens, mais ce n'est pas une réalité. Premier élément. Deuxième élément, on n'est pas proactif. Si on nous demande d'être proactif, on l'est, mais d'une manière générale, les gens vont venir vers nous et on va les aider. On va leur ouvrir des portes, on va les aider à lever des fonds. On a une vision globale, on a accompagné énormément d'investisseurs, notamment américains, à investir en France et ils y ont gagné de l'argent. Donc on a ce contact, on a cette relation plutôt privilégiée, une relation de confiance avec ces investisseurs et donc on va les aider à trouver des investisseurs en fonction de l'étape, du moment où ils se trouvent, même quand il y a des difficultés. C'est ça notre rôle. Après, on peut s'asseoir et essayer de donner une vision extérieure du quotidien de la société, mais on ne vit pas dedans, on n'a pas une connaissance aussi bonne du marché que l'entrepreneur dans son activité.
C'est quand même ce qu'on va demander, d'essayer de projeter des futurs entrepreneurs, créer des vocations. On a justement une question d'un de tes amis, on l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour Xavier, tu es un optimiste né. Alors avec le réchauffement climatique, la pandémie, la guerre en Ukraine et malheureusement encore aussi dans d'autres parties du monde, quels sont les trois secteurs que tu recommanderais aux jeunes pour monter leur entreprise? Et surtout pourquoi?
Bonne question de Jacques-Antoine Grandjean.
Quel enfoiré. Pardon. Moi, il y a toujours un sujet ou un phénomène de mode. Donc le sujet et le phénomène de mode m'angoissent toujours. C'est-à-dire qu'on se met à recevoir 1000 dossiers de personnes qui ont exactement la même idée. Et d'ailleurs, une fois avec Jacques-Antoine et Marc-Simon Signy, on s'était retrouvés, et si on s'était retrouvés, on avait monté un petit concours de start-up, et on s'était retrouvés à marier un certain nombre d'entre eux, en disant, écoutez, vous faites la même chose, moi, je sais pas, on sait pas lequel
est ensemble.
Bon, mais discutez. Et ça nous arrivait de le refaire dans un autre sujet assez récemment, dans une société qui s'appelle Achille. On voit deux entrepreneurs qui ont des choses vraiment complètement différentes. Il y en a un qui dit, mais moi, je veux faire de l'assurance, mais mon truc, c'est le recrutement, aller chercher des clients, aller les attraper, etc. Et l'autre, il dit, moi, je veux faire de l'assurance, moi, mon truc, c'est la régulation, créer les produits, etc. Et on les voit la même semaine, on se dit, on va peut-être les marier. Et quand on voit leurs chiffres maintenant, c'est explosif, on est content de les avoir mis en contact et par ailleurs d'avoir investi chez eux. Mais donc, c'est toujours ce sujet-là, un, éviter les sujets de mode, c'est un peu le sujet, c'est un peu un problème, et deux, essayer de marier des gens quand on y arrive, parce que quand il y a un sujet de mode, on est là. Maintenant, sur concrètement des sujets dans lesquels j'ai envie d'aller ou on a envie d'aller, il y a tous les sujets autour de l'agriculture, on le disait tout à l'heure, c'est de se dire, et la crise et les crises que l'on vient de vivre montrent d'autant plus l'importance de ces sujets-là, hein, d'avoir une capacité de produire localement, d'avoir des circuits courts, d'être capable d'aider des entrepreneurs différents qui arrivent dans ces secteurs et de les aider à aller même d'une manière plus traditionnelle vers ces secteurs. Donc il y a tout ce qui est autour de l'agriculture qui nous intéresse et qui nous passionne. Il y a tout ce qui est autour des cryptos et des NFT, mais pas le sujet lui-même, mais tous les outils qu'on va être capable de mettre au-dessus. On adore ces sociétés. C'est une forme d'edge, hein, c'est
de se dire... Tech.
Ouais, mais c'est une forme de protection en se disant on n'est pas sûr que ce monde ira aussi loin qu'on lui prédit. Par contre, les outils, on va en avoir besoin.
Parce que beaucoup de gens veulent y aller.
Ben voilà. Ouais. Donc, comment on est capable de faire ça? Et puis, d'une manière plus large, c'est toujours d'essayer d'investir dans toutes les entreprises qui vont fournir des services à notre monde de start-up. On adore Payfit. Payfit, en fait, a commencé en fournissant des services de paye pour les start-up et est devenu vers les groupes moyens. Et puis, bien sûr, fera la paye de tout le monde à la fin. Donc, ce genre d'entreprise, on adore ça. On se prend des bites de temps en temps. Hein. On rate des trucs. On a raté Canto, donc on n'a pas été bon. Donc, on se plante de temps en temps et on ne les voit pas tous. Mais voilà, on essaye de voir les gens qui vont créer des entreprises qui vont ensuite aller fournir des services à cette économie de start-up.
Alors, blockchain, NFT, vous l'avez dit, métavers aujourd'hui, j'allais poser la question pipo ou bingo pour un entrepreneur. C'est effet de mode ou ça vaut la peine d'y aller et le marché fera le tri?
La spéculation même sur une monnaie, c'est compliqué pour nous, donc on ne comprend pas toujours. Donc, j'achète du Bitcoin et je le mets dans un
voilà, il faut être Ledger, il faut être Elon Musk parce qu'on est le plus gros, quoi. C'est ce qu'ils disent, hein.
Ouais, peut-être, mais ça reste
ils ont
quand même
fait un corner sur le Bitcoin, quoi.
Mais bon, ça fait un truc compliqué. Donc on y revient, on a investi dans tous les outils Ledger pour stocker mes Bitcoin ou mes autres éléments. Maintenant, on tombe sur des cas d'usage concrets, typiquement dans les NFT en France, Sorare, c'est une boîte incroyable, exceptionnelle, c'est une des plus grosses boîtes de NFT au monde, je ne sais pas, deuxième, troisième, je ne sais pas, mais un truc colossal. Ça part d'ici, c'est global, ça a une croissance de malade, c'est brillantissime, des entrepreneurs de génie, une petite équipe, ils pigent ce qu'ils font, ils avancent, et là, on est obligé de voir qu'il y a un réel modèle, parce que c'est basé sur un sujet, c'est basé sur l'Ethereum, c'est basé sur des éléments comme ça. Mais au bout, c'est une idée colossale qui se développe autour du NFT et qui est juste l'application moderne de choses qui existaient avant.
Est-ce qu'il y a un avatar Xavier Niel dans un métavers quelque part où vous avez essayé la tête que ça
je
fait
Je l'ai acheté comme ça.
Ah, je vous en remercie.
Est-ce qu'on peut acheter NFT Xavier Niel?
Je crois qu'aux États-Unis j'ai participé à deux ou trois petits trucs qui fait que je dois avoir des choses comme ça, mais bon.
Ça vous plaît ou pas? Non, vous avez peur de ce monde? Vous avez l'impression que c'est une forme d'hystérie de la tech? Est-ce qu'on rentre dans le Black Mirror comme la série Bitcoin?
Non, il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est que comme ça fait 35 ans que je suis là à faire des nouvelles technologies, les gens pensent que j'ai tout suivi, que je vois très bien l'avenir et comment ça va se passer.
Ouais.
En fait, la réalité, elle est malheureusement moins brillante.
On règle la question d'après.
Voilà, merde, je m'en excuse.
Ah bon, merde, on vous a invité pourtant.
Mais voilà, donc c'est toujours un peu le problème. Moi, je vis avec ces modifications, ces évolutions-là. Souvent, il y a des choses auxquelles, sur l'instant, je n'ai pas cru. Et puis après, j'ai été convaincu, mais je n'étais pas toujours le premier. On avait créé avec un copain le premier fournisseur d'accès à Internet en France. Ça devait être 92 ou 93. Et en toute franchise, je n'y croyais pas. Donc, j'y ai cru que quelques années après. Et j'ai bien fait, d'ailleurs, parce que ça m'a plutôt bien réussi. Mais voilà. Mais donc, le truc, il est... je me disais, ce petit machin-là, c'est un truc de scientifique, ça n'ira jamais très, très loin. Et c'était une grave erreur. Bon, le web n'existait pas, etc. Mais voilà. Donc je ne sais pas répondre à cette question. La blockchain change énormément de choses. Donc, cette notion
vous croyez à cette notion de Web3, comme on dit, c'est-à-dire la troisième âge du net, peut-être retour un peu aux origines, un peu libertarien, anarchiste.
C'est un mot, ça permet.
Contre l'État.
On en rêve, mais je ne suis pas sûr. Mais non, ça reste un mot, et puis c'est un mot qui permet de simplifier tout un sujet dans lequel on vous met du métavers, un peu de crypto, un peu de NFT, et puis tout ça, ça vous crée un Web3. J'irai sur Wikipédia pour apprendre par cœur la définition, mais je ne suis pas sûr de ce qu'elle est.
Sur le métaverse, on avait à notre antenne Fleur Pellerin qui disait que c'était son nouveau dada et on lui a posé la question si demain, alors elle était ministre, mais si demain tu étais présidente de la France, qu'est-ce que tu ferais? Alors elle a décidé de s'autoproclamer, pour le coup elle avait le droit, présidente du monde, avec cette idée que ces sujets-là ne peuvent se réguler qu'à l'échelle mondiale. C'était une transition un peu hasardeuse pour te proposer, exactement. Xavier.
Française, français.
De prendre une nouvelle casquette de président, qu'est-ce que tu ferais?
Alors déjà, ce n'est pas une casquette très souhaitable, je crois, parce que je ne suis pas sûr qu'on dorme bien la nuit, donc il y a quand même un truc agréable, c'est de bien dormir la nuit. C'est le premier élément. Mais le deuxième élément, et quand on relie ça aux nouvelles technologies d'une manière générale aux entrepreneurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de la stabilité. Et donc, si j'étais président, je ne ferais rien. Voilà, c'est ça mon programme, c'est un programme de qualité, c'est un programme simple à expliquer,
sur lequel tu peux t'engager facilement.
Sur lequel je peux m'engager, incroyablement facilement vérifiable, parce que le besoin, c'est la stabilité. Donc mon programme, c'est le néant du programme.
Néanmoins, tu es entrepreneur et
c'est ce qui fait de vous un conservateur, donc si je comprends bien.
Non, c'est un stabilisateur.
Je
ne suis absolument
d'accord.
Pas pour le conformisme ou quoi que ce soit.
C'est un peu contradictoire avec l'image juste du troublion des télécoms.
Voilà, et c'est juste à un moment, ce qu'a besoin l'entrepreneur, c'est d'une stabilité. C'est-à-dire qu'on arrête de lui changer les règles. Et donc,
si on prend l'exemple. Sociale, fiscale.
Quelle qu'elle soit, le truc est incroyablement compliqué.
Donc on ne touche pas aux retraites, on touche
rien. Voilà, et mon programme, et c'est un programme qui manque d'ambition en effet, moi je pense qu'à chaque nouvelle loi, on devrait détruire à chaque nouveau texte, à chaque nouvelle annilinéa, à chaque nouveau 10 mots dans un texte, dans un code, on devrait
en supprimer
5 ou 10 fois plus.
Mais
les promesses n'engagent que ceux qui les croient, voilà. C'est pas très grave. Mais ça paraît, ça, un programme
simplifié,
de qualité plus ambitieux
donc, pas
que le programme
tout à fait
que
rien. Simplifier un
non,
peu.
Mais ça me paraît tellement compliqué. Que
c'est néanmoins, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème à résoudre. Alors donc, du coup, si tu étais président, tu ne ferais rien. C'est parce que les entrepreneurs peuvent gérer les problèmes de notre société.
Parce que à un moment, il faut arrêter de supposer que la totalité des problèmes dépendent de l'État. Il y a un certain nombre de sujets régaliens et autres qui, bien sûr, dépendent de lui. Mais le reste, c'est la société civile, je le pense, qui doit être capable de s'en saisir, de les prendre et de les régler. C'est toujours ce que l'on dit. Hein. L'impact sur la société de la création d'Uber, positif ou négatif, l'impact positif ou négatif est plus important que la plupart des décisions politiques prises au cours des 10 dernières années. Et encore une fois, c'est une décision d'une personne physique à un instant qui crée une entreprise et cette entreprise crée un produit. Et l'impact sur la société est incroyable et on peut le prendre avec Deliveroo, avec tout ce qu'on veut. Et encore une fois, je ne juge pas de la positivité ou de la négativité de l'impact, je parle juste de l'impact lui-même. Et ça, à partir de ce moment-là, il faut se dire qu'est-ce qu'est capable de faire la société civile. Le politique est capable de faire un certain nombre de choses, à des moyens, à des budgets, mais ça ne doit pas nous dispenser d'être capables, tous individuellement, de se prendre en charge d'une manière associative, au travers de la création d'entreprises, ou de plein d'autres manières.
Ah, vous avez été vous-même quand même un ubérisateur, parce que Free a été le troublion, le maverick des télécoms.
J'aime pas le passé, là.
Mais c'est juste parce que vous allez voir le lien avec le futur.
J'ai pas de requiem en sonore.
Hein. C'est l'idée que votre objectif, vous l'aviez dit, vous êtes des pigeons, je vais vous redonner du pouvoir d'achat. C'est quand même un sujet à la mode, et qui le reste, et qui va le rester sans doute encore. Donc ma question, c'est plutôt par rapport au net actuel et de demain, dont on parlait des secteurs, et peut-être demain le web, entre guillemets, 3. Est-ce que le net de demain, son boulot, c'est pas justement de s'attaquer aux rentes partout où il y en a ? Et il y en a encore beaucoup. Vous en avez attaqué une, en tout cas vous l'aviez qualifiée comme telle dans les télécoms. Aujourd'hui, il y a 4 opérateurs. Si on revenait à 3, on sait que les prix remonteraient. Enfin, c'est-à-dire, d'ailleurs, le sujet reste sur la table.
Et quel que soit le secteur, l'important dans un secteur, c'est moins le nombre d'acteurs que d'avoir un disrupteur dans ce nombre d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des pays où vous avez 5 acteurs. Si on prend l'exemple des télécoms, où il y a 5 acteurs qui s'entendent, pas de concurrence. Puis il y a des pays où on peut se retrouver à 2 acteurs et il y en a un des deux qui est turbulent. Par exemple, c'est ce que l'on fait dans les îles Comores, un pays indépendant. Il y avait un monopole, on est arrivé en tant que nouvel entrant, on met le bordel. Donc il suffit d'un acteur qui ait cette volonté de disrupter et de permettre l'émergence de cet acteur qui a cette envie de disrupter. Ça, c'est un élément qui me paraît incroyablement important. Le combat du pouvoir d'achat, c'est un combat permanent, c'est un combat qui fonctionne, c'est un combat créateur de valeur. On parlait tout à l'heure de Paul Morlet avec Lunettes pour tous, il crée de la valeur et il rend énormément de pouvoir d'achat aux Français. Il évite un système malsain, je paye une mutuelle toujours plus chère pour avoir un remboursement toujours plus cher, mais au bout, en fait, j'enrichis une forme de micro-monopole ou de caste. Et moi, Paul Morlet arrive et dit « Moi, je casse cette caste, je casse ce monopole et je ramène le prix de la lunette à un prix normal, à un prix de marché. » Et au bout, ça fonctionne et ça a un sens. Et bien sûr, tous les systèmes, tous les secteurs de l'économie sont disruptables. Et puis le disrupteur, il a le droit d'être disrupté aussi un jour. C'est assez sympa, ça. Et c'est aussi, ça redonne un autre élément, c'est qu'en cassant la rente, on permet l'émergence de nouveaux succès, de nouveaux acteurs.
On est sur la partie présidentielle. Il y a un sujet sur lequel tu t'es beaucoup impliqué, qui est celui des médias, dans lesquels t'as investi, notamment Le Monde. Ça fait un petit moment qu'on voit quand même une défiance de la population vis-à-vis des médias. A fortiori en ce moment, mais quand même depuis un certain nombre d'années, on voit l'émergence de la désinformation, des fake news. Comment, en tant qu'investisseur, par les moyens qu'on donne ou les orientations peut-être qu'on est en mesure de prendre, on peut arriver à redonner aux médias leur place originelle?
Alors, on pratique la presse d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on dit, nous, notre savoir-faire, c'est un savoir-faire de gestion et d'aller vers le digital. Premier élément. Et puis, moi, je n'ai pas de savoir-faire journalistique. Hein,
sur le digital que la bataille se joue aujourd'hui.
C'est là l'endroit où elle se jouera. Et je crois que le digital, notamment pour la presse écrite, est une chance puisque le coût de production du papier est incroyablement cher. Et donc, à partir du moment où on bascule du papier dans la durée, à chacun à sa vitesse, etc., vers le digital, on est capable de créer des médias qui ont une valeur incroyablement supérieure. Parallèlement à ça, en termes de diversité, tout le monde peut créer un média digital. Ça prend quelques minutes. Donc, ça permet au point de vue de tout le monde de s'exprimer. Et puis même, au travers de notre compte Twitter, on devient tous, en quelque sorte, un média avec un certain nombre de lecteurs. Si j'ai 200 000 followers sur Twitter, j'ai potentiellement 200 000 lecteurs. ce qui fait déjà un très très gros média.
Moi, j'ai créé des médias, ça me rendait pas légitime pour autant. En fait, c'est pas parce que tout le monde peut créer un média que donc c'est cette quête de légitimité qu'il faut.
La légitimité, elle vient du travail sérieux qui est fait. Il y a pas de critique, hein. Du travail sérieux qui est fait dans la durée, de la reconnaissance. Et à partir de ce moment-là, on se crée une audience et une force.
Non, puis il y a quand même la valeur de la marque, Le Monde.
C'est la valeur de la marque, elle est là.
Une institution. Mais la Provence sur laquelle vous êtes engagé, c'est une institution dans le sud. La Tribune, qui a connu des vicissitudes, est toujours là en 2022 parce que la marque de la Tribune, il y avait une confiance avec les lecteurs. Et la Tribune s'est transformée parce qu'on est 100% digital.
La force de cette marque, elle est là à présent à un instant donné. Ouais. Mais elle évolue en fonction de ce qu'on en fait.
C'est-à-dire que François, on peut prendre c'était une marque et c'est devenu
absolument.
Plus un média.
C'est le contraire. Ouais.
Mais encore une fois, le poids de cette marque, on en est dépositaire à un moment donné. Mais chaque personne qui va écrire, publier en son nom, à cette responsabilité de l'accompagner dans son...
Et on vous pose la question, puisque vous y avez participé, il y a eu ces auditions au Sénat sur l'indépendance des médias. Vous avez fait en sorte, pour Le Monde en tout cas, d'accompagner pour qu'il y ait une indépendance des journalistes du Monde. Comment est-ce que vous pensez que ça doit évoluer? Est-ce que le modèle que vous avez mis en place, cette indépendance, c'est une partie, même peut-être l'essentiel de la valeur? Est-ce que ça devrait être généralisé?
Encore une fois, c'est...
On va protéger les journalistes, quand on voit ce qui se passe dans les pays où ils ne le font
pas. Mais ça, ça me paraît, par essence, je ne sais pas si c'est protéger, mais...
Mais pas seulement de Poutine. Protéger les journalistes dans leur action, évidemment.
Et dans leur travail d'indépendance, et à aucun moment qu'ils puissent avoir le sentiment que, parce que quelque chose a été écrit qui correspond à la réalité, ils puissent se retrouver d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, c'est très scolaire, puni. Donc c'est éviter...
Est-ce que ce que vous avez fait au Monde devrait se faire partout, en fait? Est-ce que tous les actionnaires, vous êtes un des milliardaires de la presse, mais est-ce que tous les actionnaires milliardaires de la presse, vous leur conseilleriez finalement de léguer ça?
Écoutez,
aux générations futures?
Moi je pense qu'à un moment, quand un média n'est plus libre, tout doucement il disparaît. Et donc, à partir du moment où on est capable d'être actionnaire de médias libres, je suis assez content que les autres fassent des bêtises.
Réponse du berger à la bergère.
Et à l'inverse, les médias d'opinion prennent de plus en plus d'audience aussi.
Mais encore une fois, le média d'opinion, il ne cache pas sa position. Il a une position, il se tient à sa position, et on n'a pas de surprise quand on va aller le lire. On sait quelles idées ils ont, ou a priori, quelles idées ils ont.
Et du coup, ça me fait basculer sur la notion des algorithmes. On parle de bulles cognitives. Le fait d'avoir une opinion et de finalement ne recevoir que ce qu'on a envie de lire, est-ce que c'est pas un sujet? Et du coup, pour les entrepreneurs de la tech dans lesquels vous investissez, est-ce qu'il y a un sujet, nos algorithmes, devrait être défendu parfois?
On est plutôt vachement dans le no-code en ce moment, qui est dans nos algorithmes. Enfin, on peut aller dans le no-algorithme.
Non. Je lance une nouvelle mode après le Web3.
Il en faut plein. Je sais pas si on est dans si la notion de no-algorithme a un sens. Encore une fois, il y a un truc, un des meilleurs algorithmes ou d'AI ou d'intelligence artificielle que l'on peut voir, c'est TikTok. Je regarde ce que j'ai envie, puis si à un moment j'en ai marre d'avoir un avis, j'arrête, je zappe, et puis on va me proposer autre chose. Et l'algorithme est capable lui-même de détecter ma limite à la surinformation sur quelque chose qui semble me plaire,
Peut-être sur la question des jeunes. Alors vous disiez, c'est pas forcément tout, on ne doit pas tout attendre de l'État. Vous l'avez montré en créant l'école 42. Je crois que vous prévoyez de créer une nouvelle école.
Alors on a aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est que ce projet? Et donc les compétences qui est quand même l'or du 21e siècle dans la tech, notamment pour les femmes dans la tech. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour aller plus loin?
Aujourd'hui, 42 a tellement bien marché qu'il y en a plus de 40 dans le monde. Hein, donc, et on continue d'en ouvrir. Je ne sais pas combien ils en ouvrent.
42, déjà. Bientôt 42,
43. Je crois qu'on est même à plutôt 43, 44. Donc, mais ils continuent d'en ouvrir et ils n'arrêtent pas pour continuer d'en ouvrir. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis à côté de ça, on a créé, on en a parlé tout à l'heure, une nouvelle école dans l'agriculture. Et puis on essaye de se développer là-dedans. Quand il y a des personnes qui viennent me voir, des entrepreneurs qui viennent me voir, on veut créer des écoles dans la data, dans d'autres sujets, moi je suis ravi de les accompagner et d'aller avec eux, parce que l'éducation, c'est quand même la base.
Mais j'ai lu ça, vous réfléchissiez à une école de la data, c'est ça?
Moi, je suis associé avec des jeunes brillantissimes qui ont créé une nouvelle école sur le sujet, mais c'est public, hein, mais voilà.
Ça s'appelle comment?
Qui s'appelle, alors c'est monté par un entrepreneur de Polytechnique, brillantissime. Donc, ce n'est pas du tout nos habitudes pour aller dans ce sens-là. Et l'école, mais ça doit être un hasard, s'appelle Albert, mais je ne sais pas à qui font référence.
Donc, vous êtes en train de disrupter l'X, finalement.
C'est eux. Moi, je ne disrupte rien. On les aide et on va dans ce sens-là.
Peut-être aussi sur les besoins de formation, la diversité, les banlieues, etc. Est-ce que la tech, c'est un instrument, finalement, pour donner des emplois à des gens qui n'ont pas forcément fait des études classiques? Vous l'avez montré, 42. Jusqu'à quel point ce discours, vous avez pu le vérifier, et il a une portée, je dirais, plus macroéconomique, plus globale? Parce que là, vous avez formé, bon, je ne sais pas combien de personnes en France, mais les besoins restent immenses. Est-ce que c'est un instrument, finalement, de promotion sociale?
Alors, l'intérêt de 42, en effet, c'est qu'on prend, pas majoritairement, mais énormément d'élèves qui sont souvent des décrocheurs scolaires et autres. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes d'ascension sociale, la France est en dernière position de l'OCDE. On est dernier. On a une image égalitaire de la France qui fonctionne. En fait, ça fonctionne incroyablement mal.
6 générations.
C'est incroyable, ça ne marche pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver... Et ces jeunes, ils ne sont pas moins brillants en France qu'ailleurs. Peut-être même plus brillants qu'ailleurs. Et donc, il faut être capable de leur trouver ou leur donner les moyens de monter dans cet ascenseur social et de le faire fonctionner. C'était l'idée de 42, c'est l'idée d'Hectare, et c'est l'idée de toutes ces choses-là. C'est de leur dire, filons-leur un futur, parce qu'il y a un certain nombre d'activités dans lesquelles on n'a pas besoin d'avoir une licence de maths.
Et du coup, en tant qu'investisseur aussi, il y a un rôle à jouer. Enfin, on a le collectif Sista qui a beaucoup milité aussi pour l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Il y a tout ce qui joue au niveau de l'éducation. Quand on voit passer les dossiers, est-ce que c'est un critère ou c'est quand même le projet d'abord?
On a mis en place à Station F un programme qui s'appelle Fighter, où on va chercher des jeunes complètement différents. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des modes de recrutement différents, d'entrepreneurs, en allant les chercher là où personne ne va les chercher. C'est un truc qui marche incroyablement bien. On a des tonnes d'exemples qui font que ça fonctionne et que l'on va dans le bon sens. Voilà. Et après,
est-ce que la France reste pas un pays encore très conservateur par rapport à tout ça quand même?
Pas, vous savez, l'investisseur
n'est pas vraiment prête à donner, notamment dans les grosses boîtes.
L'investisseur, il a envie de gagner de l'argent. Donc, le profil qu'il a en face de lui, il va le juger. Mais globalement, si on a réussi à aider à créer quelque chose qui soit crédible et dans lequel il a un retour d'argent, ça va marcher au bout. Donc, peut-être que la France est conservatrice, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que quand on a un bon projet, on a des fonds et on lève des fonds. Donc, il faut vraiment être capable de guider... au début, un bon entrepreneur qui a une idée convenable et de l'emmener et de lui prendre le bras. On reprend l'exemple d'Uber ou de Deliveroo, on a créé énormément de petits entrepreneurs. C'est bien. Mais est-ce qu'on est capable de leur dire, okay, t'as déjà commencé, t'as fait un bout du chemin, mais maintenant, ton machin là, qui est là, qui est rémunéré pas de manière exceptionnelle, est-ce que cette volonté, cette énergie, et cette prise en charge que tu as été capable de faire de toi-même, t'es capable de faire autre chose et de l'appliquer ailleurs avec peut-être quelque chose de plus valorisant et de plus gratifiant financièrement.
Il y a cet adage qui dit dans les gants rouges, je ne me ferai pas virer parce que j'ai choisi IBM. Mm-hmm. Donc même si ça se plante, c'était quand même IBM derrière. Est-ce que côté investisseur, c'est quand même plus facile de miser sur un HEC, un ESCP, etc. Parce qu'il y a tout un écosystème autour, peut-être de l'argent plus facile à trouver. Et du coup, dans cette quête de retrouver sa mise, à un moment, il faut prendre parfois aussi un risque peut-être supplémentaire pour accompagner... une femme entrepreneur ou quelqu'un issu des quartiers?
Je crois que le premier critère d'investissement, c'est est-ce que cet entrepreneur a déjà été entrepreneur avant? Et donc, c'est cette notion de repeat qui est incroyablement importante. Donc, quel que soit le passé, je me suis lancé une fois, ça n'a pas fonctionné. Le deuxième projet, on va le regarder en se disant, il n'a pas envie de se replanter une deuxième fois. Et deux, il sait ce qu'il ne faut pas faire.
Et ça, c'était le truc le plus important, la culture de l'échec. On parlait de Fleur Pellerin, on en avait beaucoup parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, justement, avec cette Startup Nation qui atteint une forme de maturité, on a cette culture de l'échec, on reconnaît l'échec, on dit à quelqu'un, t'es tombé de cheval, mais tu vas remonter, on va t'aider à remonter. C'est quelque chose, alors que ce n'était pas du tout dans la culture française, il y a ne serait-ce qu'il y a une quinzaine d'années.
Donc, on va parler de la loi qui a été modifiée ou des lois qui ont été modifiées. Donc là, vous avez le droit de protester et de crier au scandale. Mais il y avait il y avait un côté vexatoire. J'ai planté une boîte, légalement,
Planté à la Banque de France.
C'était mort. Et ce sujet-là a disparu. Aujourd'hui, j'ai planté ma boîte, ok, super, refaisons une autre. Et ce sujet où les mentalités ont incroyablement évolué.
Ça, c'est vraiment vrai.
Ah ouais, ouais. Marc Simoncini a vachement bossé là-dessus, avait écrit un livre sur le sujet. Il y a plein de gens qui ont poussé sur le truc. C'est une réalité. Nous, on adore, très franchement, les repeats. Je me suis planté une fois, je reviens, je comprends pourquoi je me suis planté, j'y retourne.
Du coup, là, les politiques avaient quand même un petit intérêt, un petit rôle à jouer.
C'est pour leur dire un peu de bien d'eux de temps en temps.
On passe à la carte blanche, ça vous va ?
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
C'est un jingle qui porte très bien son nom. À 3 minutes, le micro, la caméra face à toi et finalement 3 minutes qui t'appartiennent pour aborder le sujet de ton choix.
Non, moi, ce qui m'intéresse, et on rebondit sur ce qu'on disait précédemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à emmener plus d'entrepreneurs, de jeunes personnes vers l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un sujet incroyablement important pour moi, c'est de se dire... Comment on voit dans les statistiques, on a énormément de jeunes qui disent « moi j'ai envie d'aller vers l'entrepreneuriat », mais qui ne passent pas le pas. Et donc comment on arrive à créer toute une infrastructure, comment on arrive à créer le désir, comment on arrive à créer l'envie, comment on arrive…
La connaissance déjà de…
Exactement, pour aller vers cela. Et c'était, on l'a dit tout à l'heure, vraiment l'idée de Station F à l'origine. Là-dessus, il y a la BPI qui fait un travail incroyable en disant « ok, venez me voir, on va vous financer, on a plein de poches, on a plein de trucs, on va vous aider ».
Avec les Tour de France notamment.
Exactement. Ouais. On a une législation qui a évolué. Je travaille en entreprise, je quitte mon entreprise, je pars en start-up, je crée une entreprise, j'ai le droit au chômage. Et donc, on est capable de subventionner la création d'entreprise. Hein. Même à Cuba, ils n'ont pas ça. Donc, on est dans un truc incroyablement bon, quand même. On va me redire que je parle que ma demande aux politiques, c'est de ne rien faire. Mais quand même, ils ont fait ça. Donc, de temps en temps, on a un petit coup de balle, mais qui nous garde ça, hein, qui n'y touche pas. Mais donc, comment on est capable de créer, en effet, tout cet écosystème qui soit capable de pousser des jeunes et des moins jeunes, des gens qui sont jeunes d'esprit, d'aller vers cette notion d'entrepreneuriat et de création d'entreprise. Et le besoin de fonds, c'est très bien qu'on ait des très grandes entreprises mondiales en France, et c'est fantastique, ça nous permet d'avoir un socle. Mais comment on est capable de créer les grandes entreprises de demain ? Et ça, c'était un sujet incroyablement inquiétant il y a 10 ans, parce qu'on voyait ces grandes entreprises dominantes arriver des États-Unis, d'Asie, plus rarement d'Europe, être capable de créer ces grands groupes, et de manière majoritaire, incroyablement majoritaire. Et donc l'Europe a été capable de se ressaisir, la France a été moteur là-dedans, et ça, ça me paraît quelque chose d'extrêmement important, d'avoir ces entreprises qui se créent aujourd'hui, qui soient capables de s'installer sur nos territoires, de créer des emplois sur nos territoires,
et de
grossir en restant de manière...
Et si vous projetez à la fin de la décennie, est-ce que vous pensez qu'on aura un acteur européen ou quelques acteurs européens de la taille d'un GAFA ou d'un BATX, ou c'est un vœu pieux, ou c'est pas comme ça qu'il
non,
faut
non,
s'y prendre.
Moi, vous me parlez toujours de licorne, je vous dis, on a probablement une petite trentaine, moi ça m'intéresse plus ça, je vous dis toujours, on est sur le sujet des décacornes. Quand est-ce qu'est notre première décacorne en France, notre start-up de plus de, qui a une valeur de plus de 10 milliards ?
Je pose la question. Qu'est-ce qui nous manque pour ça ? Un Nasdaq européen ?
Il nous manque des entrepreneurs qui soient encore meilleurs, qui aient plus d'ambition, qui soient capables de grossir, qui aient la dalle. On va y aller, on a des trucs à 5 milliards là, on va y aller tranquillement.
On a des trucs à 5 milliards de levée.
De 5 milliards de valo, de capi, valo, et puis bon, on y va vers les 10 milliards. Bon, on a des petits aléas géopolitiques, mais ça va s'améliorer.
Quand on a des engins qui pèsent 1000 milliards en face de nous, ou peut-être 2000 dans 10 ans.
Mais attendez, quand on se reverra dans 5-6 ans et qu'on aura nos 30 décacornes, on dira où est-ce qu'on est sur nos boîtes à 100 milliards.
On se donne rendez-vous dans 10 ans.
Il ne faut pas oublier, c'est quand on commence à approcher des valos comme le triard ou des choses comme ça. En général, ça veut dire qu'on a une part de marché significative. Les régulateurs concurrentiels arrivent. Ça s'est passé dans l'histoire.
Vous croyez que va y avoir un démantèlement des Rockefeller de la tech ?
Quand ça devient trop gros, qu'on devient trop dominant...
Il y a des actions, l'Europe a fait...
C'est un petit début, on n'est que dans la rigolade pour l'instant. D'accord. Mais bien évidemment, quand on devient trop gros, il y a un moment... Ça bouge. Et parallèlement à ça, quand on devient trop gros, c'est-à-dire que soudainement, plus vous êtes gros, plus la concurrence devient élevée. Plus il y a des gens qui salivent et babent de ce que vous faites.
Est-ce que cette guerre, donc, j'espère que malheureusement, évidemment, elle sera peut-être... mais est-ce qu'elle produit ce qu'on appelait la balkanisation du net ? Est-ce qu'on va avoir un Internet russe ou chinois ? Est-ce qu'on va avoir, en gros, deux blocs ? Un bloc occidental des démocraties, l'Internet des démocraties et l'Internet des régimes autoritaires. Est-ce que vous voyez le monde changer aussi dans ce domaine ?
Vous avez une fragmentation du monde. Je ne sais pas si la Russie est tellement sur la carte, mais vous êtes plus avec la Chine et vous avez une fragmentation du monde et une Afrique dans lequel ces deux blocs se rencontrent. Alors, c'est des pays où, dans lesquels les revenus des startups restent assez faibles. Mais les deux mondes se rencontrent. C'est-à-dire que vous avez face à face un bloc occidental, un bloc asiatique, et là, pouf, ils se tamponnent. Et c'est assez drôle. Hein. C'est un
endroit... Je parlais de la Russie, parce que Facebook sorti de Russie pour des raisons
culturelles. Mais ça reste à l'échelle de la tech, ça reste un micro-marché. Donc le
sujet, c'est l'Afrique.
Le sujet futur, c'est l'Afrique. Parce que vous voyez que c'est là où il aligne les investissements avec des
asiatiques. En plus, il y a le leapfrog, puisqu'ils sont en train de passer directement au numérique. Il va peut-être y avoir des constellations de satellites qui vont porter Internet partout.
Mais vous avez...
Vous investissez en Afrique ?
Ouais, on a plein de startups, on fait des télécoms, on a des startups. Non, on fait plein de trucs. C'est sympa, mais c'est un écosystème différent qu'il faut qu'on adopte. On fait... un peu de télécom, quelques startups, ça reste petit, mais on voit des croissances incroyables.
On est plutôt quoi, dans le e-commerce, la logistique, des choses comme
ça. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison qu'au départ d'un pays africain, on n'ait pas dans les NFT, dans le métaverse, il n'y a pas de raison que ça ne parte pas de là-bas un jour sur une bonne idée. On a une boîte dans les NFT incroyable au Vietnam. Voilà, donc c'est possible, une des plus grosses boîtes de NFT au Vietnam.
Je reviens sur ton choix de carte blanche avec cette idée qu'il faut plus d'entrepreneurs. Je pense qu'on est tous relativement d'accord. Cette idée aussi que tout le monde, peu importe d'où qu'il vienne, peut entreprendre. À l'inverse, est-ce que, peu importe d'où on vient, certes on peut entreprendre, mais est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre ? Moi j'ai souvenir de quelqu'un qui me dit « c'est génial ce que vous faites à promouvoir l'entrepreneuriat ». Je me suis lancé, j'ai planté ma boîte, j'ai perdu ma femme, ma maison. Ça, on n'en parle jamais. Et du coup, comment on montre à tout le monde qu'on peut y arriver et en même temps, on leur donne réellement les moyens d'y aller.
Celui qui s'est planté, il faut qu'il en recrée une. Parce qu'il a tout perdu. Globalement, il va repartir sur une basse scène et il sait ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on a un très bon repeat. Donc, dans son cas, on a un très bon repeat. Après, pour moi, la notion d'entrepreneur, elle est incroyablement plus large parce qu'on peut être entrepreneur en allant créer une association, on peut être entrepreneur en s'occupant de son quartier, on peut être entrepreneur en se mobilisant sur les réseaux sociaux pour une cause. Donc la notion d'entrepreneur, c'est la volonté de construire quelque chose.
Prendre sa vie en main.
Exactement. Et c'est ça, hein. Donc la notion d'entrepreneur, elle est incroyablement plus large que le fait de créer une entreprise dans l'image que j'ai de la notion d'entrepreneur.
Wow.
Aïe.
Presque pas mal. On aime bien cette rubrique La Claque, où l'idée c'est que tu partages un moment où tu as pris une claque qui a été salvatrice peut-être et en tout cas riche d'enseignements que tu pourrais partager avec nous.
Alors il y a un truc horrible, c'est qu'on dit à chaque fois c'est quoi ton fail, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton machin.
Alors maintenant c'est la claque.
Ou la claque. Le truc qui est là, c'est que j'ai un cerveau très très bizarrement fait.
Ne garde que le...
Bah ouais, que les bonnes nouvelles. Et donc c'est trop facile. Je sais que c'est trop facile, mais le truc est incroyablement comme celui-là. Et parfois des gens, on fait des trucs, on a des projets avec des gens, on se plante. Et genre 5 ans après, on dit mais tu te souviens de lui ? Et mon cerveau l'a gommé. C'est-à-dire que même la personne avec qui on a fait le truc à planter, mon cerveau est capable de le gommer. Donc c'est un truc complètement infernal et j'ai un optimisme incroyable. C'est-à-dire que moi, le premier jour du Covid, j'ai dit « ils nous font un confinement vendredi soir, c'est fini, c'est évident ». Donc j'ai cet optimisme permanent qui est une vraie chance que ça me permet de faire plein de choses, même quand ça paraît pas possible, et de temps en temps, ça marche. Donc ça veut dire que je dois être la personne qui s'est le plus plantée dans sa vie, parce qu'être optimiste, on passe son temps à se planter. J'ai jamais cru que la Russie envahirait l'Ukraine. Jamais. Aucun intérêt, c'est n'importe quoi. Bon, je n'étais pas le seul. Mais j'ai toujours cet élément-là de positivisme qui me laisse penser que ça va être incroyable, que ça va marcher. Le marché est d'un milliard, moi je pense que le marché il est de 100 milliards. C'est pas grave, le truc il est toujours celui-là, et cet optimisme. Je suis confortable dedans, donc je suis désolé de jamais répondre à cette question. C'est incroyable. Alors il y a des gens qui disent mais là tu t'es planté. Je dis d'accord. Mais bon.
T'es un optimiste. On a quelques bribes du coup de qui est Xavier Niel. On va aller un petit peu plus loin ensemble.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Tu peux t'allonger, fermer les yeux.
Merci docteur.
Et c'est un peu le moment de psy, mais. On aime bien cette question de savoir d'où on vient et peut-être quel gamin t'étais. Est-ce que déjà il y avait cet optimisme qui était partout, qui irradiait ?
Ah ouais, non, j'étais un enfant incroyablement optimiste, c'est-à-dire que ça allait toujours aller mieux. J'avais des notes. C'est super chic de dire que j'étais très mauvais à l'école. J'étais moyen à l'école, j'avais un deal avec mon père. On m'ennuyait pas si j'avais 12. Voilà, donc j'avais toujours 12. C'était assez simple. Je sais pas si je travaillais beaucoup pour avoir ce 12, mais j'avais ce 12 qui était la moyenne et qui faisait que bon, on avait un deal, on ne perdait pas avec mon 12. Donc c'est parti comme ça. Mais bon, quand j'avais un 10, j'étais sûr la fois d'après d'avoir un 12. Quand j'avais un 14, j'étais très fier, bien évidemment. Mais enfin bon, je vivais là-dedans. Et j'étais tellement heureux petit que j'avais l'impression qu'on me cachait la réalité de mon... Je suis né à Créteil et j'ai grandi à Créteil. Qu'on me cachait la réalité de mon statut réel parce que les gens, je les trouvais trop gentils avec moi et trop parfaits avec moi. Donc j'ai toujours été incroyablement heureux, optimiste dans ma vie.
Il y a des mantras qu'on t'a passés, peut-être tes parents, peut-être des proches, que t'as gardés, conservés et que du coup, tu, à ton tour... comme tu disais, je redonne en parlant d'entrepreneuriat, que dans la vie même personnelle, tu décides de partager avec tes proches.
Il y a quelque chose de fou, c'est que mes parents, je crois que mon père a fait 15 ans d'études après le bac, enfin, il avait toujours, moi je l'ai connu étudiant petit, et ma maman aussi était énormément sur la culture et sur des choses comme ça, et que moi je sois celui produit, et ma sœur, j'ai une sœur qui est exactement comme ça, la culture... elle est incroyablement calme, posée, elle ne s'emballe pas, logique. Quand il y a une crise, il faut l'appeler elle, c'est elle qui tout de suite est capable de la prendre. Et j'étais la bizarrerie de la famille à dire « Ok, on va créer des boîtes, on va gagner de l'argent. » C'était un truc qui c'est incompréhensible. Mais pourquoi il arrête ses études à 17 ou 18 ans? Mais c'est n'importe quoi. Tu n'as aucune forme de culture, tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Et ça a été quelque chose de très drôle. Jamais compris, on ne sait pas d'où ça vient ce truc-là, ou quoi dans mon éducation a pu me pousser vers cela. Parce que
mais on ne t'a pas dit de ne pas y aller?
Non, parce que ça ne faisait pas partie de la culture familiale. Et puis j'étais indépendant financièrement. Donc quand on a 18 ans, qu'on est indépendant financièrement, pardon, on n'est pas très bloqué.
Il y a un truc que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, si ça continue, une tradition. Vous allez souvent, une fois par semaine, je crois, dans les catacombes de Paris. Je pense que vous y faites, peut-être que vous pouvez nous le dire ou pas. Et est-ce que, du coup, vous voyez venir cette histoire de catacombe, on se dit, est-ce que c'est un bon endroit pour se planquer si jamais on était bombardé? Donc, j'ai lu aussi que vous avez racheté un ancien abri anti-nucléaire pour y faire des... ils mettent des serveurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une forme de précaution au cas où?
Donc chez Scaleway, hein, qui est une filiale d'Iliad, on a en effet dans Paris un abri anti-atomique data center qui nous permet, on ne sait jamais, de conserver des données avec des sécurisations spécifiques. Et c'est quelque chose qui marche bien, mais je ne sais pas
pourquoi. Vous n'avez pas la carte des autres abris
Je ne sais pas s'il en reste beaucoup, des abris anti-atomiques à Paris.
On en a moins fait. Il paraît qu'en Suisse, il y en a partout.
Bah, écoutez, celui-là
est précautionneux, celui-là dans leur coffre.
Celui-là est grand et on a quand même un succès. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont très intéressés par ce data center ces dernières semaines. Ça doit être un hasard.
Vous pouvez donner l'adresse.
Non, mais ça a été prévu comme ça, en se disant, on ne sait jamais. Un jour, on peut avoir une crise, on peut avoir des tremblements de terre, on peut avoir un certain nombre d'éléments, et il faut être capable de se protéger à ces moments-là d'une manière différente. Donc, ce data center a été conçu avec cette idée. Sur le sujet des, entre guillemets, catacombes, c'est de retrouver des copains avec qui je fais ça depuis des années. Et ça, c'est sympa, c'est de revenir vers un monde normal. C'est-à-dire qu'on, voilà, aujourd'hui, c'est pas un monde normal. Et puis, si ce soir, je vais me promener avec eux sous terre, bah, ça redevient un monde normal avec des gens normaux.
Je reviens sur la partie très perso, mais tu charries beaucoup Jacques-Antoine Grangeon sur son rapport aux ondes. Tu l'avais fait à Big, tu l'as fait d'ailleurs dans 40 Nuances de Next. C'est quoi tes petites manies à toi?
C'est une moquer de Jacques-Antoine sur les ondes, déjà. Ça, c'est une grosse manie permanente. Je ne sais pas quelles sont mes manies. C'est dur comme question, parce qu'on ne se voit jamais, comme on se voit probablement dans une glace. On se dit qu'on ne doit pas être trop mal. Ça doit être assez infernal.
On va rappeler Jacques-Antoine pour lui demander.
Ouais, lui doit savoir. Il est trop sympa, donc il n'osera même pas me donner des défauts.
Il y a 10 ans, on demandait aux entrepreneurs quel était leur rôle modèle. Alors, ils citaient Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, on entend Xavier Niel, entend Jacques-Antoine Grangeon.
C'est que je suis très, très vieux. C'est qu'il est très, très vieux aussi. C'est très mauvais pour nous, ça.
Alors, je ne sais pas, c'est déjà, une petite fierté.
Moi, c'est un sujet qu'on évoque souvent avec notamment Jacques-Antoine, c'est de se dire... On aimerait être là au mérite et pas à l'ancienneté. Donc le problème, c'est qu'on a peur d'être là.
Il y a peut-être les deux quand on est si.
Oui. Mais j'ai un peu peur que ce soit à l'ancienneté. Donc ce que j'adorerais, c'est qu'on soit capable de trouver des nouveaux. Et souvent, on est avec
eux.
et avec Marc Simoncini, mais c'est qu'on soit capable de trouver des nouveaux talents qui se saisissent de ça, ce que fait Frédéric et d'autres, hein, mais on a des différences d'âge significatives, mais pas délirantes, mais qu'on soit capable de trouver des nouvelles phases de l'entrepreneuriat en France qui est 25 ans. Pourquoi ? Bah parce que c'est super dur pour un gamin d'une vingtaine d'années de s'identifier à nous. Je pense que c'est incroyablement complexe, alors qu'il est capable de s'identifier à quelqu'un qui a 25 ans, qui est là, qui a lancé sa boîte il y a 5 ans. Et donc on a besoin d'aider à l'émergence de ces nouveaux talents.
On a une question à ce propos de Roxane, que tu connais bien.
Vous avez un message.
Salut Xavier, j'aimerais bien te poser une question que je pose souvent en entretien. Donc, qu'est-ce que tu as fait dont tu es le plus fier et pourquoi ?
C'est l'inverse de la claque.
c'est plus facile à répondre.
Non, mais quand ça vient de Roxane, c'est super simple parce que c'est tout ce qui sont ces sujets dans lesquels, bien évidemment, on a... Il y a deux éléments dont je suis incroyablement fier, toujours. C'est une première qui est business, qui consiste à dire comment... On a été capable de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et toutes les études de l'INSEE qui disent que l'on a rendu dans la durée, je sais pas, des dizaines de milliards d'euros aux Français, bon, bah on se dit, il y a quand même un truc de fierté, c'est de se dire, OK, on a participé à la hausse du pouvoir d'achat des Français.
C'est vrai que toutes ces dépenses contraintes qui sont...
Bah voilà, et donc on a réussi à faire baisser ces dépenses contraintes. Il y avait un ministre, mais après il l'a regretté, qui nous a dit qu'on avait fait plus pour le pouvoir d'achat des Français qu'un président en 5 ans, c'était assez fier, après il est devenu ministre de l'économie, il a changé d'avis, mais bon, c'est le concept des politiques qui peuvent être changeants. Donc ça, c'est un élément de fierté, c'est toutes les startups dans lesquelles on a créé quelque chose qui a rendu du pouvoir d'achat, j'en suis incroyablement fier. On parlait tout à l'heure de Paul Morlet, enfin, c'est plein d'exemples comme ça où on dit, OK,
il va être rendu...
Mais tant mieux, parce qu'il fait quelque chose de fantastique. Ouais. Mais à chaque fois qu'on a été capable de faire ça, on se dit, OK, au-delà d'avoir créé une entreprise, on a été bon. Et puis de l'autre côté, c'est toutes les initiatives qui sont des initiatives dont la finalité n'était pas de gagner de l'argent. Donc on va reprendre Station F, on va reprendre 42, on va reprendre Hectare, qui sont des initiatives dans lesquelles on se dit, OK, allons aider d'une autre manière, mais allons aider la France, allons aider l'Europe, allons aider l'économie, allons aider quelque chose, une grande idée que l'on peut avoir.
Autre sujet, on parle beaucoup de ces grands acteurs de la tech aux US qui mettent leurs enfants dans des écoles sans écran en tant que père. Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées, peut-être demain en tant que grand-père, sur « OK, la tech c'est bien, mais à partir d'un certain âge ?»
Je vois, hein, j'ai plein de copains qui disent pas d'iPad, etc. C'est quand même dur aussi de couper des enfants de ce qu'ils peuvent faire avec leurs copains. Donc j'ai un peu de réserve avec ça. Après, essayer de limiter un peu les écrans, ça ne peut pas faire de mal. C'est juste qu'ils soient capables de ne pas être 10 heures sur un écran ou à 10 ans, qu'ils ne soient pas 10 heures par jour sur TikTok.
Est-ce qu'il ne faudrait pas créer l'école, néanmoins, enfin, c'est le rôle de l'éducation nationale, mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour cette éducation au numérique, quand même, qui reste, c'est une génération, il y a les digital natifs, mais c'est vrai que ça prend une place tellement considérable, et demain peut-être avec le métavers, il y a quand même la fusion avec les jeux vidéo aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à garder, alors en dehors d'aller dans les catacombes, la part de la réalité, finalement, dans un monde où on voit à la fois des horreurs, celles de la guerre, par exemple, en direct, aujourd'hui, sur TikTok, par exemple, ou sur...
On les voit à la télé aussi.
Et, oui, mais enfin, on les voit encore plus en direct, et je pense que les jeunes ne regardent pas la télévision aujourd'hui, ils voient des choses qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un sujet très important, là, pour le coup, on risque d'avoir des souffrances, il y en a déjà, psychologiques, dont on n'a pas conscience.
Je pense qu'on se posait la même question il y a 30 ans avec la télévision, ou il y a 20 ans avec la télévision, donc c'est juste une évolution de la société, et c'est la responsabilité des parents de se dire, OK, c'est quoi le temps raisonnable, et est-ce que tu as suffisamment de temps pour t'ouvrir à autre chose et connaître le reste du monde. Et je pense que nos parents, enfin en tout cas, pas les miens, mais les vôtres, parce que vous êtes jeunes, mais ont eu cette question à se poser à un instant de raison. C'est notre responsabilité de parents de se dire, OK, où est la limite et où est-ce qu'on la met ?
Est-ce que la bonne question, c'est quoi le dernier livre que tu as lu ?
Qu'est-ce que j'ai ? Alors, je lis des trucs toujours très, très bizarres. J'ai lu la vie d'un garçon qui s'appelait Monsieur Gulbenkian. Mais c'était un monsieur qui, dans les années, je sais pas, 30 ou dans les années 30, percevait 5% du pétrole du pétrole du monde entier. Donc c'était probablement l'homme le plus riche du monde et qui avait une vie incroyable, qui venait d'Arménie. Et voilà, donc j'ai trouvé ça incroyable.
Ça vous intéresse, les histoires de milliardaires ?
C'est pas ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la manière de vivre. Et en tout élément, il voulait toujours avoir les choses les plus belles. C'était ça son truc. Mais vraiment, en tout sujet. Et il avait organisé sa vie toujours pour avoir les choses les plus belles. Et puis, dans l'histoire, un jour, il décide de faire un super deal, importe des tonnes de caviar, mais il a oublié que c'était périssable. En fait, il perd plein d'argent. Donc, le truc est assez drôle.
Et des petites leçons.
Xavier Niel, on arrive à la fin et on a vraiment passé un super moment. Merci beaucoup. Peut-être merci une dernière question, une question un peu fin du monde, fin du mois. On est en 2022, voilà, il arrive ce qui est en train d'arriver. Comment rester optimiste? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes là, qui nous regardent? Comment rester optimiste en 2022? Comment se projeter quand on parle de fin du monde?
Le sujet, c'est qu'il y a, on a... Alors, ça peut progresser, mais il y a toujours une notion de fin du monde. On a toujours des crises, si on prend au cours des 10 dernières années, vous avez eu les attentats, vous avez eu le Covid, vous avez eu des crises sociales, vous avez des guerres... Et ce sujet, il est permanent. Et si on n'est pas à un instant, et bien sûr c'est un élément de stress, mais si on n'est pas capable de gommer ce sujet de ses esprits, ben on n'est pas capable d'avancer. Donc,
on ne fait plus rien.
On fait plus rien.
Pas être paralysé.
C'est le truc. Et on l'a vu. Et en général, on arrive dans des nouvelles situations à s'acclimater très vite. On l'a vu avec la crise du Covid. On a la stupeur, et puis après, il y a le développement. Et l'écosystème, si on repart de l'écosystème start-up, pendant la crise du Covid, il a été incroyable, il a explosé. Donc, ceux qui sont capables de s'adapter, en fait, c'est une chance, une opportunité pour des gens capables de s'adapter à ces mondes qui vont.
Il faut garder l'esprit fighter.
Ouais, c'est ça. Il faut garder l'esprit fighter. Ça ne veut pas dire être profiteur de guerre ou profiteur de crise. C'est juste de se dire, dans cette crise, à cet instant-là, comment je suis capable de gagner de l'argent. Le profiteur de guerre ou le profiteur de crise, il sera jugé un jour moralement, juridiquement. Celui qui se dit, OK, il y a un sujet et il y a une opportunité et je la saisis et j'avance. C'est là où on retrouve des entrepreneurs qui vont être capables de créer incroyablement de la valeur.
Un dernier mot, c'est aux 8 lauréats, aux lauréats de la tribune 10 000 entrepreneurs, 10e anniversaire de notre
concours. Déjà, bravo, parce que ça a été un long chemin de sélection, j'allais dire de croix, mais c'est pas sympa, un long chemin de sélection pour y arriver là. Qu'ils aient un optimisme incroyable, parce que s'ils ont de l'optimisme, rien ne peut leur arriver.
Merci beaucoup Xavier Niel, merci d'être venu à la fois au Grand Rex, où vous serez diffusé, mais bien sûr rediffusé sur toutes les plateformes, Spotify et Deezer et toutes les autres, et latribune.fr bien sûr. Merci à Xavier Niel pour cette heure, merci à Thomas Bensazon de nous avoir accompagnés, puis on continue 40 nuances de Next parce que c'est un rolling permanent et on attend les décacornes pour pouvoir les interviewer.
Tu veux poser une question Xavier à notre prochain invité? Sans savoir qui c'est.
Ah, c'est vachement dur. Ouais.
C'est dur ici.
C'est toujours les questions dures. Non. Comment il arrive à être optimiste dans ce monde horrible?
C'est une bonne question.
Merci
à tous de nous avoir écoutés.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Bensazon.